TMCI TV vous présente l'émission Face à Face. Dans ce Face à Face avec Yannis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi.
Hello, hello mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à cette émission Face à Face qui va être un peu spéciale puisqu'on va aborder des sujets qui sont d'actualité. On va parler de pornographie, de sexualité, d'homosexualité. Et pour cela, j'ai un invité, Carlos, bonjour.
Un plaisir, Yannis. Bonjour.
Merci d'être là, d'avoir accepté cette invitation. Quand j'ai entendu ton témoignage, je me suis dit, il faut que tu viennes sur ce plateau.
Merci.
Incroyable, mais vrai. Tu es une preuve vivante de l'amour de Dieu et de ce que Dieu est capable de faire.
Amen. Amen.
Tu dis amen. Alors les gens, peut-être, ils disent, bon, ok, mais non, mais quand ils vont comprendre...
Mais pourquoi?
Pourquoi? Quand ils vont entendre un peu ton parcours, ils vont réaliser qu'à la fin, oui. Je veux dire, chacun d'entre nous, à un moment donné, on expérimente quelque chose de particulier de la part de Dieu. La Bible dit que Dieu vient chercher. Ouais. Donc, il est venu te chercher et t'étais pas comme tu es maintenant. Et tu vas nous raconter un petit peu ta vie. Tu as écrit un livre qui s'appelle « Inexplicable ». Pourquoi « Inexplicable » ?
À cause de ce changement, à cause de cette rencontre. C'est une transformation tellement inexplicable et qu'il fallait la raconter. Non, je la raconte.
Tu la racontes dans un livre de 400 pages qui relate un petit peu une grosse partie de ta vie. Alors moi, forcément, il y a des chiffres hein, des mots aussi qui m'ont interpellé. Son obsession extrême à la pornographie et au sexe l'ont conduit à avoir des relations sexuelles avec plus de 600 hommes.
Ouais.
Tu confirmes?
Ouais, c'est plus que ça.
C'est plus que ça. Ouais, là, t'as mis 600. Donc.
Ouais, j'ai mis 600 pour mettre un chiffre, mais c'est
tout,
plus que ça.
Tu dis pas tout dans le livre.
Ouais, le livre, il est assez transparent, mais le but du livre, c'est vraiment d'aider ceux qui se trouvent dans ces situations. Parce que quand j'ai partagé mon histoire, ça tombait que j'étais pas le seul à avoir des luttes si intenses avec la sexualité.
D'accord. Alors, c'était quoi ta vie, Carlos? 600 hommes. Bien occupés, quand même.
Oui, oui, mais la vérité, c'est que pour te rendre un niveau d'addiction si extrême avec des sexes, c'est parce que ça commençait très tôt dans la vie, au moins pour mon cas. Je me rappelle que de l'âge de 5 ans jusqu'à 12, j'étais abusé sexuellement, et pas par un homme, mais c'était 4. Et l'affaire que je dis souvent avec l'abus sexuel, c'est que ce n'est pas nécessairement violent, ce n'est pas nécessairement déplaisant. En effet, il y a un abus sexuel qui est très plaisant, c'est fait sur la manipulation. Et quand je me faisais manipuler pour aimer ce que je ressentais, là, ça embarquait à plus d'abus, plus de rencontres, plus d'expériences. Et de l'âge de 5 ans jusqu'à 12, je pense que j'ai expérimenté proche de 1000 fois.
Donc, t'es en train de me dire qu'à l'âge de 5 ans, tu as éprouvé des plaisirs au sein d'une atrocité qu'on t'a fait subir?
Oui, bien sûr. Parce que c'était pas méchant, c'était pas avec la douleur, c'était pas avec la coaction, c'était carrément est-ce que tu aimes, est-ce que tu savoures, on peut continuer à faire ça plus tard. Ne dis rien à personne et tu vas continuer à expérimenter ça.
Il y avait du plaisir sexuel déjà dans...
Absolument.
À 5 ans, tu ressens...
Sauf que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas c'est quoi le sexe, tu comprends pas le plaisir, tu comprends rien. Tu te laisses manipuler. Le plus souvent, dans la majorité des cas d'abus sexuels, c'est une personne connue. Donc, tu t'attends pas les mal de la personne.
C'était qui pour toi?
Là, je l'ai dit bien en espagnol, mais en français, je l'ai dit, c'était 4 cousins. Mais le plus méchant, c'est le premier. C'est celui qui m'a carrément enduit dans le plaisir de l'expérience sexuelle.
4 hommes?
Ouais.
Donc, après, qu'est-ce qui se passe?
Après ça, il faut ajouter aussi dans l'histoire que ma mère, elle était une femme très stricte, très forte de caractère. Elle était la directrice de l'école et c'était une école militaire. Donc, elle était très stricte. Ça me faisait toujours sentir que j'étais jamais à l'auteur. De l'autre côté, mon père, il était abandonnant. Ils sont divorcés quand j'avais 7 ans. Mais je sentais qu'il me rejetait à cause qu'il était très efféminé. J'avais des manérismes, j'étais plus délicat. Et ça, dans les cultures latines, c'est pas trop bien vu. Donc, je me sentais, si je peux dire, d'un côté, que j'étais pas assez pour ma mère. Mon père me rejetait. Et les seules, comme expérience d'amour que je recevais, c'était l'abus sexuel. Donc ça m'a fait m'accrocher encore plus à ces expériences.
Donc tu étais demandeur, tu vivais au Venezuela. Hein,
oui, à l'époque j'étais au Venezuela.
Donc tu étais demandeur de ces rapports avec ces hommes.
Je me suis rendu à ce point où je les cherchais, où c'est moi qui demandais d'être avec eux.
D'accord, donc ça se traduisait comment?
Dans quel sens?
Tu allais vers eux, tu leur disais on peut passer du temps ensemble?
Non, vu que c'était toujours comme dans les secrets, dans l'intimité, je m'approchais, disons s'il était couché là, il n'y avait personne dans la maison, je cherchais à lui faire des massages de pieds. J'avais 7 ans et je cherchais à allumer l'autre pour qu'il me donne ce plaisir.
T'évolues comment dans ce cheminement?
À l'âge de 12 ans, je découvre la pornographie homosexuelle. Et moi, j'aimais déjà ce que je ressentais, j'aimais avoir ce plaisir. Et quand je découvre la pornographie, je trouve que c'est encore mieux, parce que je peux encore expérimenter plus.
T'es exposé sur les réseaux sociaux, tout ça?
Non, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'était site web, comment ça s'appelle? Internet, donc cabine, ok? Donc, l'affaire, c'est que j'allais là-bas, j'ai consommé. Et après, quand j'étais à la maison et que ça s'est donné l'opportunité, j'étais avec mes cousins. Donc, c'était très bouclé dans la sexualité de très tôt dans mon âge.
Mais tes cousins étaient aussi homosexuels?
Non, pas nécessairement. Et jusqu'à date, ils ne sont pas.
D'accord. Donc, toi, tu grandis un petit peu avec cette pensée où tu as une attirance pour les hommes?
Oui. Là, je me rappelle très bien qu'il y a un épisode qui s'est passé quand j'avais 12 ans. C'est que mon père, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est approché à nous, et cette personne, c'était un homme, il a dit à mon père, « Ah, regarde, c'est lui, c'est ton fils, c'est lui qui a le visage de tapette. »
C'est lui qui a ?
Le visage de tapette, ou le visage d'homosexuel.
Ouais.
Quand cet homme, il dit ça, mon père, il me regarde, mais il dit rien. Donc, je me suis senti exposé, et j'ai vu que mon père m'a pas comme protégé. Donc, je me suis fâché à l'intérieur de moi, et j'ai dit à mon père, « Tu penses que je suis homosexuel? Prépare-toi. » Car tu vas voir les plus homosexuels que tu n'as jamais vus de ta vie. Et c'est à ce moment-là que je me suis encore déchaîné plus dans l'expérience sexuelle avec des hommes.
Alors c'était à 16-17 ans, c'est quoi ta vie?
À 15 ans, j'ai commencé la prostitution avec des professeurs.
Quand tu dis, il y a des gens qui nous regardent, quand tu dis que tu te prostituais, c'est-à-dire qu'à 15 ans, tu avais déjà arrêté... ton cursus scolaire, tu...
Non. C'était des professeurs de l'école qui me payaient pour du sexe. Oui. Des professeurs après à l'université qui me payaient pour du sexe. Donc, mais j'aimais déjà ce que j'expérimentais.
Mais tu leur envoyais un message,
Non. Ah, ok. Comment ça se passe? Et c'est mon expérience, je pense que c'est l'expérience de plusieurs. C'est que j'avais d'un coup, il est apparu cette capacité de regarder aux yeux un homme. Et juste en regardant le regard, et il y avait une tension sexuelle qui se reconnaissait. Et on pouvait aller avoir du sexe tout de suite. Donc à cause de cette, on appelle ça gaydar, ou le radar gay, à cause de cette gaydar, j'avais cette capacité de connecter un l'autre tout le temps. Donc à l'université, à l'école, n'importe où.
Donc ton cursus scolaire ou académique, tu vas le passer entre les cours et puis la prostitution.
Oui, et j'étais un bon étudiant. Donc on ne pouvait pas mettre des alarmes à cause que j'allais mal à l'école.
Et le regard des autres, est-ce que les gens savaient, mis à part peut-être certaines personnes de ta famille, les gens savaient que tu te prostituais?
Non, personne savait ça, personne savait rien. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup reçu, c'est du bullying, de l'intimidation, à cause qu'il était plus délicat, plus efféminé. Donc on me disait souvent des mots, et c'était assez fort autant que rejet. J'étais très exposé au rejet, à la famille, dans la famille, dans le voisinage, à l'école, on se moquait de moi, c'est ça.
Le rejet provoquait chez toi un refuge vers des gens qui te ressemblaient ou
Oui, et c'est là, à l'âge de 15 ans, que je découvre la communauté LGBT. Quand je découvre la communauté, ils me disent « Carlos, tu n'es pas le seul à sentir comme ça, on est plusieurs qui se ressentent comme ça, viens ici, tu es bienvenu. » Et c'est la première fois que j'ai senti que j'appartenais quelque part, parce que partout j'étais rejeté. Mais là, ils m'ont dit « Tu fais partie de ce groupe, on t'accueille, on te protège. » Donc à ce moment-là, c'était quelque part un endroit de sécurité.
Et qu'est-ce qui se passait dans cette communauté LGBT?
Bon, moi je venais déjà assez expérimenté, donc je n'ai pas trouvé de nouvelles choses pour dire comme ça. Plutôt c'était les expériences d'aller à la disco, d'aller au café, de travailler avec un groupe de gens qui...
Ah mais t'avais des gens qui t'écoutaient, qui te comprenaient, qui
oui.
Faisaient les mêmes...
Oui, et après on couchait ensemble tous, et c'était correct, parce que je faisais ça depuis tout le temps, donc il n'y avait rien de nouveau pour moi.
Ouais, tu parles de quand même 600 hommes, tu réalises que c'est hors norme.
Oui, oui, absolument. Hommes. Je les vois aujourd'hui, mais à l'époque, je voyais pas ça.
Je veux dire, et comment tu arrives à justement enchaîner les conquêtes?
À cause de ce regard. C'était très facile. Ça prend pas plus. C'était un regard de regard et je savais. On savait déjà qu'on pouvait aller avoir de quoi.
Mais 600 hommes, c'est quoi? C'est deux hommes par jour? C'est
Regarde, je pouvais passer, par exemple, je pouvais passer une journée complète en visitant des salles de bains, des centres commerciaux, où je savais qu'il y avait des activités homosexuelles.
Bah, attends, raconte-nous une journée typique de Carlos.
Ok. J'ai fini de travailler, j'avais déjà 18 ans, disons. J'ai fini de travailler, je m'en vais dans un centre commercial où il y a des salles de bain, des toilettes, qui n'ont pas de caméra. Donc, je sais déjà qu'il y a l'activité sexuelle entre les hommes dans cette place. Et je pouvais rester là 4 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures, juste attendre que quelqu'un d'autre rentre. Donc, tu te stationnes à l'extérieur, tu es à l'extérieur de la salle de bain, tu vois aux yeux les autres, voir peut-être qui a le regard. Et quand il a le regard, tu rentres avec lui, tu fais des choses. Après, il y a un autre qui arrive, après, il y a un autre qui arrive. Et comme ça, chaque jour, pendant des mois, pendant des années. Aujourd'hui, c'est plus facile avec les applications de rencontres sexuelles, mais à l'époque, c'était comme ça. Ça s'appelle cruising, cette pratique. C'est très dangereux. Tu ne te protèges pas, tu ne connais pas la personne, tu ne deviens pas ami, tu vas juste avoir des rencontres sexuelles.
Et le sida, les hépatites...
Je n'ai aucune idée comment je n'ai pas pris aucune maladie. C'est un miracle.
Mais ça ne te faisait pas peur?
Oui, j'allais chaque mois me faire des tests de sang et priant Dieu. À ce moment, j'étais chrétien, mais on va parler de ça tantôt, mais j'ai prié pour ne pas avoir pris aucune maladie, mais j'étais tout le temps en train de me faire des tests de laboratoire.
Tu parlais de pornographie, tu as été exposé très jeune aussi à la pornographie. Alors d'un côté, tu as l'homosexualité. La pornographie, comment elle s'installe dans ta vie, dans ton quotidien?
Et c'est comme si je dirais quelqu'un m'a parlé. Si j'avais vu des choses, là, je me suis mis à regarder, je me suis mis à chercher, et là, je tombe dans des sites web qui sont spécialisés en pornographie homosexuelle. Donc, ça, c'est une mine de matériel qui est là. Il n'arrête pas de produire, donc tout le temps, il y a de nouveaux matériels.
Donc, tu y passes combien de temps? Moi, j'entends des gens parfois dire, mais ça me mine mes relations sociales, ils se coupent du monde pour se connecter à certains réseaux sociaux, à des sites web.
J'étais comme ça, complètement. Et il y avait une célébration de la famille et je sentais ce désir à l'intérieur de moi qu'il fallait que j'aille voir la pornographie et je me découpais de ma famille et j'allais passer des heures. Je mentais au travail, je mentais à n'importe qui pour aller voir la pornographie. Je pouvais passer des heures, 8 heures, même dans une journée à regarder la pornographie.
Et donc ça t'amène dans un état de bien-être, tout ça, ou...
Je peux dire que, dans mon cas, jusqu'à ce moment-là, je me sentais bien. À l'âge de 16 ans, 17 ans, je me sentais bien. Parce que j'étais en train de donner tout ce que mes sensations me demandaient. Je les nourrissais au complet. Donc, c'est plutôt à l'âge de 16 ans que j'ai décidé de parler à ma famille. Ma famille ne savait rien de ce que je faisais. Mais j'ai décidé de parler un jour quand j'ai compris que cet abus sexuel que j'ai vécu pouvait aussi aller chez les plus petits de la famille. Donc j'ai décidé de parler pour protéger les plus petits, mais aussi pour faire mon sortie du placard. Je voulais sortir du placard. Donc c'est là, à 16 ans, que je parle avec ma sœur et je lui dis que ce que j'ai vécu est que j'étais homosexuel. Et la raconté à ma mère, mais ma mère m'a confronté avec une question. Elle m'a dit, mon fils, et si tu aurais jamais été abusé sexuellement dans l'enfance, serais-tu homosexuel? Moi, je n'avais jamais pensé à ça parce que je croyais que j'avais été né comme ça. Mais là, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, oh, peut-être si je n'étais pas si exposé aux expériences sexuelles de l'enfance, je n'aurais pas cette attirance, je n'aurais pas cette désir si extrême d'avoir des sexes avec des hommes. Donc, ça m'a fait penser à cette question. Par la suite, j'ai rencontré un psychologue pour traiter le sujet de l'abus sexuel, et elle m'a dit, ça serait intéressant que ton futur, ta vie, ne soit pas le résultat de ce que quelqu'un d'autre a décidé dans ton enfance. J'ai dit, ok, donc, si je n'ai pas décidé toutes ces choses-là, mais je suis le fruit de ces choses que j'ai vécues, je n'aimerais pas que ça continue comme ça. Et c'est là, à l'âge de 17 ans à peu près, que j'ai décidé de changer ce que je ressens. J'ai décidé que je ne veux plus être homosexuel.
tu décides que tu ne veux plus être homosexuel et tu dis dans ton livre, il a fortement lutté pour changer son orientation. La lutte, c'est quoi?
La lutte, c'est que une chose, c'est que tu veux, et l'autre chose, c'est que ton corps désire. Donc, je ne voulais pas être homosexuel, donc je me suis dit, ah bon, ça veut dire que je dois être hétérosexuel, je dois être attiré des femmes, mais l'affaire, c'est que pour moi, une femme et une chaise, c'était la même chose, il n'y avait absolument rien. Donc, je voulais me forcer à quelque chose qui n'était pas naturel pour moi. Et je disais, bon, peut-être si je suis avec les femmes, je vais changer. Mais là, quand je me forçais à être avec des femmes, je pensais aux hommes. Et là, je partais tout de suite en courant être avec des hommes parce que c'est là où je trouvais mon plaisir. Mais quand j'étais avec un homme, je disais, OK, mais si j'aurais été pas abusé dans l'enfance, peut-être je serais pas ici. Donc, la lutte, c'était ce combat dont ma pensée tellement terrible entre ce que je ressens et ce que j'y crois.
Donc, tu enchaînes les conquêtes, tu luttes avec toi-même, et puis tu essayes aussi de changer ton orientation.
Et les pensées suicidaires rentrent.
Pensées suicidaires.
Oui.
Et il y a marqué, il se disait chrétien.
C'est à ce moment-là que j'étais athée. Jusqu'à ce moment de l'histoire, j'étais athée. Je ne croyais pas en Dieu, je ne croyais pas en Jésus, je ne croyais pas à la Bible. Mais un jour, je suis allé au cinéma voir un film que je pensais était un film romantique. Et ça tombe que c'était La Passion de Christ. Et je ne comprenais absolument rien. Mais sans que personne m'explique, c'est comme si Dieu m'a dit, c'est que tu vois dans le film, je l'ai fait pour toi. J'ai donné ma vie pour toi, je vais te donner une nouvelle vie. Et c'est à ce moment-là que j'étais exposé au message de l'Évangile pour la première fois. Et quelques jours après, j'ai eu une rencontre avec une voisine. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, Dieu a fait ça pour toi. Elle m'a donné une Bible. Et je dirais que, quoi, une semaine après, j'ai eu ma rencontre avec Dieu.
Et ça a changé ta vie?
Après cette rencontre avec Dieu, ma vie est devenue pire.
Pire?
Pire.
C'est-à-dire?
Parce que, malheureusement, j'ai eu cette rencontre avec Dieu. J'ai connu l'amour de Dieu, ce que Jésus a fait pour moi, l'Évangile, la Bible, tout ça. Mais le problème, c'est que j'ai commencé à aller dans une église très religieuse et au lieu de continuer à me enseigner dans tout ce que Dieu a fait pour moi, le fait que c'est lui qui m'a pardonné, que lui a pris mes péchés, qu'il m'a transformé, que je suis une nouvelle créature, que j'ai la vie de l'esprit, au lieu d'aller dans cette direction, ils sont allés plutôt dans la direction de, bon, il faut maintenant que tu laisses les péchés, que tu changes, que tu abandonnes tes pratiques, que tu sois saint parce que Dieu est saint. Donc ils m'ont amené à la performance. Et c'est là où je découvre que le péché a pris beaucoup plus de force qu'avant quand j'étais athée. En effet, la grande majorité des 600 hommes que j'ai connus, c'était après ma rencontre avec Dieu.
Donc tu vas à l'église, ta vie n'a pas changé.
Non, empire.
Elle s'est empirée. Et ça se traduit comment, hein, entre je vais à l'église le dimanche et la semaine tu...
Exactement. Alors, j'allais à l'église le dimanche et pendant la semaine j'allais faire tout ce que les sensations me demandaient parce qu'il y avait ce désir incontrôlable.
Tu menais une vie sans limite ou sans le limite. Fait que tu allais à l'église quand même, il y avait peut-être certaines culpabilités tu...
Oui, c'est là la rentre, parce que j'avais pas la culpabilité. Mais c'est quand je rentre à l'église, la parole dit, c'est Saint-Esprit qui amène la conviction de péché. Donc, on peut pas amener ça sur personne. C'est Saint-Esprit qui le donne, il me l'a donné. Il me l'a donné solide. Donc, d'un coup, je ne veux pas faire ça, mais je ne sais pas comment contrôler ce que je ressens. Donc, avant, je vivais selon ce que je ressentais. Maintenant, je suis dans l'église et je lutte contre ce que je ressens. Et je sais pas quoi faire. Donc, j'allais dimanche à l'église.
Tu vas quand même.
Parce que c'était incontrôlable. Mon affaire, c'est que j'ai pensé que tout ce que je ressentais, c'était moi. Donc, si je le ressens, il fallait que je l'obéis. Comme ça, j'y croyais. Donc, j'ai resté 3 ans dans cette église jusqu'à il y a eu un accident. Ma sœur est décédée dans un accident d'auto. Et je me fâche avec Dieu et je quitte l'église. Et c'est là où je m'en vais encore plus loin. C'est là où j'ai même commencé une relation avec un homme. Et cette relation a duré 7 ans.
T'étais déjà loin, là, quand même.
Comment?
T'étais déjà loin de Dieu, là. Et tu dis qu'après l'accident, tu vas aller encore plus loin. Mais
en plus
fait,
loin, ouais.
C'est, on dirait que tu franchis des limites parce que t'as pas envie d'être dans les normes, t'as pas envie de...
Et je voulais mourir.
Tu voulais mourir?
Ouais, aussi. Parce que je savais pas quoi faire avec cette lutte.
Donc c'est une vie auto-suicidaire, quoi.
Ouais.
T'es en phase d'auto-destruction.
Mm-hmm.
Mais est-ce que dans cet enchaînement d'hommes, de relations, t'arrives à trouver un pseudo-repos?
Oui. Dans cette relation où j'ai resté pendant 7 ans, j'ai eu un pseudo-repos parce que ça semblait une belle relation, malgré que j'ai trompé cet homme. J'ai couché avec d'autres hommes pendant que j'étais avec lui. Je pense que pour moi, le sexe et la pornographie, c'était quelque part un lieu de sécurité.
Donc tu continuais à regarder la pornographie avec l'homme avec lequel tu vivais?
Oui.
Vous regardiez ensemble peut-être?
Oui, on a fait des choses ensemble. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a fait toutes.
D'accord. Et vous alliez à l'église ensemble aussi?
Mm-hmm.
Et ça se passe comment là?
Parce qu'il disait, Seigneur, moi maintenant je suis chrétien, entre guillemets, et je te demande de me changer. Parce que là, je connais la parole. C'est pas personne qui est en train de me forcer. Je veux changer. C'est ma décision. Je comprends les gens qui veulent vivre comme ça. Mais moi, je voulais changer. Là, je dis, Seigneur, tu es tout puissant. Change-moi. Mais il ne me changeait pas. Et j'ai demandé. Et rien ne s'est passé.
Et quand tu dis change-moi, qu'est-ce que tu veux?
Je ne voulais pas avoir l'attirance envers les hommes.
D'accord. Mais tu vas avec ton copain à l'église. Vous demandez à Dieu de vous changer.
Mm-hmm.
Donc, de ne plus avoir l'attirance l'un pour l'autre. Mais vous vous aimez.
Oui, en effet, quand j'ai commencé mon cheminement avec Dieu, ce sont passés 3 ans, j'ai lutté quand même, j'ai sujeté la pornographie, mais quand ma sœur meurt, là je me fâche avec Dieu, je commence cette relation avec cet homme, et lui il n'est pas chrétien. Et je ne veux pas qu'il lui raconte de Jésus, parce que j'ai dit, s'il s'est converti, il va me quitter. Donc je ne veux pas, mais finalement on a eu la conversation, il a connu le Seigneur, et là, on vient à l'église et les pasteurs ils nous disent, bon, il faut que vous vous séparez. Mais on était tellement attachés qu'on n'a pas pu le faire. Donc on a changé d'église et on s'est dit, on va s'en sortir de cette histoire ensemble. Mais ensemble, on a passé 7 ans ensemble. C'était une codépendance affective. C'était trop.
Et comment ça prend fin?
Ok. L'affaire, c'est que ça semblait que rien allait m'aider. Même j'avais fait des thérapies de conversion, ce qui est vraiment controversé, et je recommande à personne faire des thérapies de conversion. C'est des thérapies pour te transformer de l'homosexualité à l'hétérosexualité. Ça, moi, pour moi, c'est une torture psychologique. Donc, ni la thérapie a fonctionné, ni la prière a fonctionné, rien n'a fonctionné. J'ai dit, au moins je suis avec un seul homme. Au moins Dieu, il va voir ça. Mais on sait que c'était pas biblique, ça fait pas du sens. Mais j'ai essayé dans mes forces, et j'ai essayé de changer. Mais le plus j'essayais de changer, le plus j'étais attiré des hommes. Donc, finalement, se sont passés, je sais pas, après, entre les films et la fin, se sont passés 11 ans. 11 ans à aller à l'église. C'est finalement quand la relation avec lui a fini que j'ai compris que ma vie était un désastre. J'ai compris que même si je voulais changer, j'allais jamais le faire. Et à ce moment-là, j'ai fait quelque chose de pire. Je deviens gay chrétien. Je prends la parole et je la tords pour qu'elle s'aligne à ce que je crois. À ce que je ressens. C'est là où je dis, ah bon, David et Jonathan, il était le premier couple gay, donc peut-être Dieu il supporte ça. Quand Jésus il a guéri les serviteurs de cet homme-là, comment il s'appelle? Du guerrier, Romain. Il a guéri cet homme-là, et là, ça veut dire que Jésus était en train de supporter ses relations parce que cet homme était la main. Donc on commence à tordre la parole, et je me fais gay chrétien. Oui. Et, mais là, je me trouve que c'est encore pire. Je me trouve encore plus loin. Et c'est là, dans ce point-là, que le Seigneur m'a fait comprendre, dans une conversation avec quelqu'un, que Jésus était mon sauveur, mais il n'était pas mon Seigneur. J'ai eu une conversation avec quelqu'un, et il m'a dit, Carlos, le problème de plein de chrétiens est qu'ils sont Jésus comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Quand il m'a dit ça, j'ai senti Dieu en train de me parler. Et j'étais le plus loin possible. Et là, c'est comme si Dieu il me dit, je veux t'aider, mais je ne peux pas. Parce que le Seigneur de ta vie, de ta pensée, c'est toi, c'est pas moi. C'est toi qui lead ta vie. C'est toi qui dirige tout. Donc, j'ai fait une radiographie de ma vie était un désastre. Et c'est là où j'ai dit, tu sais quoi, Seigneur, c'est vrai. J'abandonne, je ne veux plus être mon Seigneur. Ce n'est même plus important si tu me changes ou tu ne me changes pas. J'ai tout détruit ma vie. Je mets tout de côté, je vais te suivre, deviens mon Seigneur. Quelques jours plus tard, Dieu a fait un miracle, je vais au fond dans les livres, mais j'ai compris que Dieu, il voulait pas que je change dans mes forces. Il savait que je pouvais pas. Ce qu'il voulait, c'était mon cœur. Il voulait que je fasse de lui ma délice et que je me focalise pas tant sur ma vie. Il y a un verset en Matthieu 16, 25 qui dit, celui qui veut garder sa vie va la perdre, celui qui perd sa vie à cause de moi va la trouver. Tout le temps que j'étais focalisé sur ma vie, changez-moi, j'étais en train de m'accrocher à ma vie. Quand j'ai dit, Seigneur, c'est plus important si tu me changes ou pas, je veux juste être sûr de par qui tu es. 3 jours plus tard, il a commencé à travailler en moi.
À travailler.
Ouais, à travailler, parce que c'était dur en travail.
Tu as été convaincu de son amour.
Oui.
Et ouais. Que son amour dépassait tout l'amour que tu avais reçu.
Et tous les péchés que j'avais commis.
Et tous les péchés que tu avais commis. Ça t'a conforté dans la présence de Dieu?
Oui.
tu as à ce moment-là expérimenté quelque chose de nouveau, la culpabilité, etc. Parce que bon, tu vois, tu sors quand même d'un long parcours. Comment tu fais table rase de tout ça?
Aujourd'hui, je comprends que mon problème n'était pas le péché. Mon problème, c'était pas le péché. Le problème, c'est que je comprenais pas ce que Jésus avait fait avec mon péché. Je comprenais pas qu'il avait vraiment payé, qu'il avait pris, qu'il m'avait lavé, qu'il m'avait justifié, qu'il m'avait sanctifié. Je comprenais rien. J'ai passé 11 ans à l'église sans comprendre l'évangile. Je comprenais pas la vie de l'esprit, la nouvelle créature. Je comprenais absolument rien. Donc, j'ai lutté dans mes forces pour plaire Dieu parce que je savais pas que Jésus m'avait déjà fait une nouvelle créature avec sa nature devant le Seigneur.
Alors Carlos, on arrive bientôt à la fin de cette émission et on aura l'occasion de t'écouter sur tout le volet guérison, restauration, délivrance dans la prochaine émission. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est là, qui lutte peut-être avec certaines réalités. On le voit, aujourd'hui les sites pornographiques sont partout. Les enfants de plus en plus jeunes sont exposés à des choses vraiment laides. Beaucoup sont aussi... ont des attirances homme pour homme, femme pour femme. Et peut-être qu'il y en a qui veulent mettre fin à tout ça, s'en sortir. Si tu pouvais parler à quelqu'un, tu lui dirais quoi?
Voici ce que je comprends aujourd'hui. Et je viens de le dire. Le problème, c'est pas ta lutte. Le problème, c'est pas le péché. Le problème, c'est qu'on comprend pas ce qu'il a fait pour nous. Quand tu comprends vraiment que Jésus a payé le prix, qu'il a pris tous tes péchés, qu'il t'a lavé, qu'il t'a mis à nouveau devant le Père, et qu'il t'a donné une nouvelle identité, une nouvelle nature, et qu'il t'a restauré, et tu commences à donner plus de poids à ce que la parole dit qu'à ce que tu ressens, quand tu fais de la parole ton Seigneur par-dessus tes sensations, là tu commences à voir des transformations dans tous les domaines. Donc, le problème, ce n'est pas vraiment le péché, le problème, c'est l'incrédulité. On ne croit pas ce que Dieu a déjà fait pour nous. Quand on le croit, c'est scellé. 1 Jean 5,4 dit que la victoire de notre vie en Christ, de nouvelle créature, se trouve dans notre foi. Si on est né de Dieu, on a la victoire sur le monde, et cette victoire, c'est notre foi. C'est notre conviction de que ce qu'il a fait, c'est vrai. Quand tu donnes plus de poids à ça, tu as de la liberté.
Merci, Carlos. Alors, le diable aime mettre la lumière sur le péché de l'homme, afin de l'amplifier. Et il semblerait qu'aujourd'hui, ils mettent la lumière sur certains péchés. Et quand on parle d'homosexualité, tout de suite, on a les poils qui s'irisent, la société s'agite. Et moi qui vais souvent dans les plateaux télé, etc., souvent j'ai le droit à cette question. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'homosexualité? J'aimerais te dire que l'homosexualité n'est pas le sujet central des évangiles. Faut le comprendre. L'homosexualité n'est pas le sujet central de l'évangile. Le sujet central de l'évangile, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et Dieu ne vient pas juger, condamner, il vient sauver. Amen. Il n'y a pas de petit péché aux yeux de Dieu. Le même Yanis Gauthier qui était perdu hier ne valait pas mieux que Carlos qui était perdu hier et vice-versa. Alors, quelle que soit ta vie, quel que soit ton état, quel que soit tes combats, sache que Dieu est capable de t'accueillir. Tu as une place dans le plan de Dieu. Et aujourd'hui, si tu souhaites, comme Carlos, comme moi, je l'ai fait un jour, dire oui à Jésus, alors là où tu es, entends la voix de Dieu, entends la voix de celui qui t'aime, entends celui qui est en train de frapper à la porte de ton cœur et qui te propose une solution de sortie, une issue à ton combat, une issue à tes luttes et tes batailles. Et si tu veux lui donner ta vie, dis simplement avec moi, Seigneur, je veux te confier ma vie. Seigneur, je me repens de mes péchés, je les abandonne et je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur. Et je fais de toi mon Seigneur, comme Carlos l'a fait, comme moi je l'ai fait. Et on se retrouve pour la prochaine émission où Carlos va nous parler de délivrance, de restauration, de guérison. Et tu vas voir ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est juste inexplicable. Merci Carlos.
Amen, merci.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Face à Face sur emcitv.com.